Sandra Viscardi.
Los Angeles sous la menace des incendies. 5 personnes sont déjà mortes dans des feux attisés par les vents violents et hors de contrôle. Hollywood a reçu l'ordre d'évacuer. Au total, 100 000 personnes ont fui. 1 500 maisons sont en cendres. Joe Biden a annulé son voyage en Italie. Notre correspondant Loïc Piala s'est rendu dans le quartier d'Altadena.
Brandon n'en revient pas. Toutes les maisons de sa rue ont brûlé, sauf la sienne.
Je suis surtout vidé émotionnellement et incrédule aussi. Je m'attendais tellement à voir la maison détruite. Et ça n'a aucun sens. Qui sait, le feu peut revenir. Les pillards peuvent passer. J'ai l'impression que je ne peux faire confiance à personne. On est parti aussi vite qu'on a pu, sans rien prendre. Pas de photos de mariage ou de nos bébés. Ce sont des choses qui vont nous manquer, alors je suis venu les chercher puisque j'en ai eu l'opportunité.
Le Eaton Fire, déclaré mardi soir, a ravagé sa rue et des quartiers entiers d'Altadena. Il n'a fallu que quelques heures. Un pâté de maisons après l'autre, le paysage évoque une ville bombardée. Altadena, au pied des montagnes, est une zone à risque. Marc le savait quand il a emménagé ici il y a 2 ans. Aujourd'hui, sa maison n'est plus là.
Avant même que l'incendie arrive, tout volait dans la ville. Ça faisait très peur, pour être honnête. Surtout parce qu'on vit près de la montagne et on a parfois ces vagues d'air venues de la montagne avec des rafales qui peuvent souffler à 150 km par heure. C'est encore plus dangereux.
Des heures après le passage des flammes, des maisons brûlent encore dans le bruit de façades qui s'effondrent. Mobilisés par plusieurs incendies, les pompiers sont débordés. Alors ici et là, des volontaires aident avec des moyens de fortune. Près de la bibliothèque, épargné, un adolescent arrose le sol fumant. Son tuyau est relié à un sac à dos en métal qu'il remplit dans la piscine d'une maison voisine. Loïc Piala, RTS, Altadena.
Joe Biden prononcera aujourd'hui l'éloge funèbre aux obsèques de l'ancien président Jimmy Carter en la cathédrale nationale de Washington. Hier, c'est Donald Trump, le futur président, qui prêtera serment le 20 janvier avec des drapeaux en berne en raison de ce décès, qui s'est recueilli devant la dépouille du 39e président au Capitole. Était-ce une tentative de coup d'État ou, comme le présente le gouvernement, l'attaque de pieds nickelés avinés? Un commando a attaqué hier soir le palais présidentiel tchadien dans la capitale N'Djamena. Il a fait au moins un mort avant d'être décimé par les forces de l'ordre. 18 des 24 assaillants ont été abattus. Vous avez peut-être déjà fraudé dans le bus, mais cette fois, ce sont les bus qui ont fraudé. Oui, après l'affaire Carte Postale, l'Office fédéral des transports s'est penché sur les autres compagnies. Eh bien, deux d'entre elles, Bern-Lötschberg-Simplon et Bus Ostschweiz, sont aussi fraudées sur les subventions pour 15 millions de francs au total. Filées à Sautier, elles auraient triché pour toucher davantage de soutien public.
Notamment en demandant trop d'argent pour amortir l'achat de plusieurs bus. Ce sont 3 anciens responsables de Bus Ostschweiz qui sont visés. L'entreprise est active dans les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie. Les personnes concernées auraient ensemble perçu 5,5 millions de francs en subventions indues. Une autre affaire touche plusieurs cantons romands, Berne, Neuchâtel, Fribourg et le Valais. 2 ex-responsables du BLS auraient collecté 10 millions de francs d'argent public en trop. Leur subterfuge, ils ont déclaré des recettes trop faible pour le transport de voyageurs. Ces cas portent sur une période de 5 à 10 ans. Depuis, ces millions touchés en trop ont été remboursés par ces 2 entreprises au canton concerné et à la Confédération. Reste maintenant de potentielles poursuites pénales. Les 5 personnes mises en cause bénéficient bien sûr de la présomption d'innocence. C'est maintenant aux tribunaux cantonaux d'examiner ces cas.
Laurent Courte, l'ancien conseiller d'État neuchâtelois, renonce à sa candidature au rectorat de l'université de son canton. Il a retiré son dossier après un préavis négatif de l'Assemblée de l'Alma Mater. Avis aux propriétaires qui voudraient rendre leur bâtiment plus vert. L'avenir des subventions est incertain. Depuis le 1er janvier, une enveloppe fédérale est prévue pour remplacer les chauffages à mazout ou électriques par du renouvelable. C'est l'un des points majeurs de la loi climat approuvée en votation en 2023. Mais avant même l'application de la loi, le fonds a été raboté et cela fâche le conseiller national socialiste vaudois Roger Nordmann. Pour lui, le conseil fédéral ne met pas la priorité au bon endroit.
C'est complètement idiot. On a besoin des 2 choses. On a besoin de remplacer les chauffages et on a besoin d'isoler le bâtiment. Cette politique, c'est vraiment une politique de la courte vue, alors qu'on doit moderniser toutes nos infrastructures pour se libérer de notre dépendance aux énergies fossiles et pour des raisons climatiques. Malheureusement, je ne peux pas garantir que des mauvaises décisions ne soient pas prises. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'en 2025, l'argent est à disposition. On est au début de l'année. Tous ceux qui investissent dans l'enveloppe du bâtiment ou dans le chauffage et qui font leur demande de subvention cette année, ils pourront toucher l'argent. Et donc, ça déclenchera des travaux. Et donc, mon conseil, ce serait de foncer cette année.
Loïc Meillard prend la tête de la Coupe du Monde de slalom après sa deuxième place hier soir au slalom nocturne de Madonna di Campiglio, derrière la surprise bulgare Albert Popov. Loïc Meillard qui a encore une fois montré de la constance, Grégoire Perroux.
Et il fallait en avoir de la constance sur cette piste verglacée, embrumée et truffée de pièges. Ils sont nombreux d'ailleurs les skieurs à avoir connu l'élimination, 23 en première manche et 9 en deuxième. Mais Loïc Meillard, lui, est resté calme et a réussi encore une fois à livrer la marchandise. Quatrième podium en 5 slaloms cette saison, le Valaisan montre une régularité impressionnante et prend au passage la tête du classement de la discipline. Au moment d'analyser sa performance, Loïc Meillard, si perfectionniste, n'était pas totalement satisfait. Après deux troisième place et de deuxième rang, il voulait la victoire. Mais il lui a manqué ce petit grain de folie qu'a eu par exemple Albert Popov. Le Bulgare de 27 ans a réalisé une deuxième manche de folie pour signer le premier succès de sa carrière et pour entrer dans l'histoire de son pays. L'unique victoire d'un skieur bulgare, c'était il y a 45 ans, Petar Popangelov, déjà en slalom.
Un ciel gris et humide pour ce jeudi avec une limite pluie-neige vers 1600 mètres. Quelques éclaircies en Haut-Valais, 10 degrés au plus et toujours du vent. Même menu demain mais plus frais et la neige en pleine ou presque au petit jour.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Musique Matin. Sydney Fierreau.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre émission matinale. Je suis très heureux de vous retrouver en ce 9 janvier, après un petit moment d'absence. Tous mes vœux à toutes et tous, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette nouvelle année 2025. Nous avons 2 heures à passer ensemble ce matin, avec dans quelques instants le concours Payot, ça sera à 7h15. Après les informations de 8h, comme c'est d'usage, il y aura la nouveauté du disque. Et puis à 8h30 à peu près, j'aurai des places à vous offrir, notamment pour le théâtre de Vidi. Il y a un concert de luth avec Borzoulian, qui est un excellent luthiste. Et puis à 8h45, dans l'actualité musicale, c'est Thierry Sartoretti qui viendra nous parler de gospel. Il est 7h08 et on commence tout de suite avec Beethoven. Thank you. C'est toute l'élégance de Ludwig van Beethoven avec l'Allegro assai de la sonate pour violon et piano numéro 8 en sol majeur avec Frank-Peter Zimmermann au violon, Martin Helmchen au piano. Une sonate opus 30 numéro 3 qui a été dédiée au tsar Alexandre Ier de Russie et qui reflète bien une période de transition dans la vie de Beethoven marquée par sa première confrontation avec sa surdité. Vous n'êtes pas sans savoir que Beethoven finira sourd sa vie, c'est quelque chose qui l'handicapera, dont il souffrira énormément, mais qui ne l'empêchera pas en fait de continuer à composer de très belles pièces. Nous passons à présent à un autre romantique, c'est Robert Schumann avec un extrait du Carnaval et Scène mignonne sur quatre notes. Nous allons entendre deux mouvements, Pause et Marche des Davidsbündler. Alors cette Marche des Davidsbündler symbolise le combat entre la société fictive des Davidsbündler qui a été créée par Schumann, qui représentait bien les défenseurs de l'art véritable, et puis contre les philistins, c'est le terme qu'il utilisait pour désigner ceux qu'il considérait comme les ennemis de l'art et de l'innovation musicale.
Thank you.
Nous entendu en extrait de Carnaval, scène mignonne sur quatre notes de Robert Schumann avec Éric Lesage. Vous avez entendu la marche des Davidsbündler contre les Philistins, les défenseurs de l'art donc contre ceux qui sont contre l'art. Voilà, tout simplement. Il est 7h19 et si nous jouions?
Le concours de musique matin avec Payot Libraire.
Et nous continuons dans la thématique des Pays-Bas, du Royaume des Pays-Bas de cette semaine, avec une question qui a été élaborée par nos collègues de la documentation. Est-ce que vous pouvez me donner les noms des trois territoires et du pays que l'on regroupe sous le nom Royaume des Pays-Bas ? Voilà, c'est la question que je vous pose ce matin. Si vous voulez jouer, c'est très simple. Vous écrivez sans tarder à matinconcours@rts.ch. matinconcours@rts.ch. Je vous répète la question une nouvelle fois. Est-ce que vous pouvez me donner les noms des trois territoires et du pays que l'on regroupe sous le nom Royaume des Pays-Bas ? Si vous voulez jouer, donc vous écrivez sans tarder votre réponse que je me ferai un plaisir de lire. Je dépouillerai les résultats et puis il y aura un tirage au sort vers 7h45 à peu près. Vous aurez connaissance de l'heureux ou l'heureuse gagnant qui remportera un bon paillot. Baila la baille, viens danser, c'est une valse antillaise d'un album qui s'appelle ABC Island Primer, qui est en soi un indice pour la question du concours Payot de ce jour. Il est 7h23, vous êtes bien à l'écoute de Musique Matin sur RTS Espace 2. Je vous souhaite un excellent réveil. Thank you.
Thank you.
C'était la musique de Giuseppe Verdi avec l'Allegro du Quatuor à cordes en mi mineur interprété par le Leipziger Streichquartett. Andreas Seidel au violon, Tilman Bühning au violon, Matthias Musdorf au violoncelle et Ivo Bauer à l'alto. Une œuvre assez unique dans le corpus de Verdi, puisque c'est le seul quatuor, la seule référence, on va dire, à la musique, la seule œuvre de musique de chambre que Verdi ait laissée. Il l'a composée pendant les répétitions de son opéra Aïda, alors qu'il était à Naples. Les répétitions avaient été retardées à cause de problèmes avec les chanteurs. Et il a donc écrit ce quatuor pour passer le temps. Il disait lui-même, très modestement, j'ai écrit ce quatuor uniquement pour mon plaisir. C'était donc ce quatuor à cordes en mi mineur de Giuseppe Verdi. Voici à présent Rachmaninov. Thank you. Mais c'est la valse, le deuxième mouvement de la deuxième suite pour deux pianos. Ça fait beaucoup de deux quand même. De Sergueï Rachmaninov, ici interprété par Brigitte Engerer et Boris Berezovsky, deux amis de longue date, deux immenses musiciens. On regrette beaucoup le départ prématuré de Brigitte Engerer. C'est une œuvre que Rachmaninov avait écrite après une période assez difficile pour lui, puisque en 1901, l'époque où cette œuvre a été écrite, il venait juste de surmonter une grande dépression et puis un vrai blocage créatif grâce à une thérapie par la psychologie, tout simplement. Et donc, cette suite, eh bien, c'est un peu une renaissance pour Rachmaninov. Et oui, comme quoi même les compositeurs se retrouvent devant la fameuse page blanche. Alors, voici à présent une mélodie de Maurice Ravel. Oui, on fête cette année le grand Ravel avec l'anniversaire de ses 150 ans, des 150 ans de sa naissance, puisqu'il est né le 7 mars 1875. Et je vous propose que nous écoutions une mélodie extraite de Don Quichotte à Dulcinée. Une œuvre qui avait été d'abord une commande pour un film avec le célèbre basse Féodor Chéliapine. Il y a d'ailleurs Jacques Ibert aussi qui a composé pour ce film-là, qui avait participé au concours. Et nous allons entendre le premier mouvement, c'est la chanson romanesque, une vraie déclaration d'amour et idéalisée, bien sûr, puisque c'est Don Quixote à sa Dulcinée.
Disiez que la terre à tant tourné vous offensa, je lui dépêcherai pas ça. Vous la verriez fixer cette terre. Si vous me disiez que la nuit vous vient du ciel trop fleuri d'astre, déchirant les divins cadastres, je faucherai d'un coup la nuit. Si vous me disiez que l'espace est si vide et ne vous plaît point, chevalier Dieu, la lance au bois, j'étoilerai le vent qui passe. Mais si vous disiez que mon sang est plus savoureux qu'à vous, madame, je blêmirais dessous le blâme. Et je
si vous disiez que mon sang est plus à moi qu'à vous, madame, je mourrais en bénissant votre nom. Oh là là, si c'est pas beau ça. Qu'est-ce qui envoie des textos comme ça aujourd'hui pour séduire quelqu'un ou pour draguer quelqu'un, pour faire un date, comme on dit? Ah, ça manque quand même un peu, non? Plutôt que, wesh, vas-y, tu kiffes. Enfin bon, bref, c'était la chanson romanesque extraite de Don Quixote à Dulcinée. Trois mélodies pour baryton et piano de Maurice Ravel avec le grandissime José Vandamme, accompagné par Dalton Baldwin au piano. Il est 7h41, dans quelques instants, ça sera le résultat du concours Payeux. Mais en attendant, je vous propose que nous écoutions un sextuor de Johann Christian Bach. Et nous étions avec Johann Christian Bach, le plus jeune fils de Jean-Sébastien, et avec une œuvre, c'était ici, le sextuor en do majeur, nous entendions l'allegro par l'ensemble Il Giardino, Il Gardellino, et qui reflète bien, l'esprit de cette époque à laquelle les classes aristocratiques, on pourrait dire, se réunissaient dans des salons, justement, où il était l'usage de parler, de lire de la poésie, de avoir des discussions philosophiques et de déguster des mets raffinés, et puis bien sûr d'écouter de la musique comme ce sextuor justement en do majeur. Il est 7h47 et c'est le moment du résultat du concours Payot.
Le concours de musique matin avec Payot Libraire.
La question du jour concernait le royaume des Pays-Bas, comme c'est le sujet toute cette semaine. Et je vous demandais si vous pouviez me donner les trois noms des territoires et du pays que l'on regroupe sous le nom royaume des Pays-Bas. Alors, vous avez été nombreux et nombreuses à avoir les bonnes réponses, parfois pas du tout. Parfois, vous m'avez parlé des United Kingdoms, du Royaume-Uni, d'Angleterre. Il ne fallait pas confondre les deux. Et la réponse, je vous la donne tout de suite, c'est Aruba, Curaçao, Saint-Martin et les Pays-Bas, en raison, bien sûr, de l'histoire coloniale des Pays-Bas. Et Aruba, Curaçao et Saint-Martin font partie des provinces unies des Pays-Bas, comme on appelle le royaume des Pays-Bas, puisque au XVIIe siècle, donc c'était les Provinces Unies. Et puis, ces îles des Caraïbes ont été prises par les Néerlandais aux Espagnols ou colonisées à partir du milieu du XVIIe siècle. Elles faisaient partie des Antilles néerlandaises, donc un ensemble de territoires caribéens sous domination néerlandaise. Alors, félicitations à toutes et tous pour vos bonnes réponses. Mais c'est ce matin, Michael Bratz de Darnay-sur-Nyon qui a été tiré au sort. Félicitations, cher monsieur, c'est vous qui remportez le bon paillot de ce jour. Nous étions dans le hall du Roi des Montagnes. C'est un extrait de Pierre Guine, suite pour orchestre numéro 1 d'Edward Grieg, ici interprété par l'orchestre symphonique de l'URSS et de Moscou, donc sous la direction d'Evgeny Svetlanov. Et bien dans cette partie de Pierre Guine, il se retrouve capturé par les trolls dans la montagne. Et il se retrouve donc dans la salle du trône du Roi de la Montagne. C'est une figure assez grotesque et menaçante. Vous aurez reconnu avec les pas au début, pom, 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 qui signifie bien cette espèce de balourdise. Alors, puisqu'on est dans le domaine du féerique, je vous propose à présent de nous plonger littéralement dans l'opéra de Rusalka d'Antonin Dvorak avec un fameux air. C'est l'air à la lune, c'est l'un des moments les plus célèbres de cet opéra, puisque Rusalka supplie la lune de transmettre son amour au prince dont elle était prise. Et oui, c'est un amour impossible, puisqu'elle-même est une naïade, on pourrait dire ça comme ça, ou c'est une nymphe des eaux. Et c'est un opéra qui aurait inspiré, peut-être, certains disent, la petite sirène. C'était le fameux chant à la lune, extrait de Rusalka d'Antonín Dvořák, ici interprété par René Fleming avec le London Symphony Orchestra et la direction de Georg Solti. Une épitaphe de Sekilos par Leushkal Baroque Ensemble. Il est 8h et tout de suite les informations sur RTS Espace 2.